L'atelier.
Moi je dis rien moi. Rien à dire.
On apprend à faire de la radio sur radar. L'atelier.
Wait, hold it.
L'atelier.
Salut à tous et à toutes, merci de nous rejoindre sur les ondes de Radar. On est en plein cœur de la MJC pour mettre en avant un projet de jeunes autour de la maltraitance animale. Un projet qui est né de la tête d'un jeune garçon qui fréquente justement les locaux de la MJC à Fécamp. Il a été accompagné, 3-4, je vais y arriver, par Zoé, Camille. Il a emmené avec lui Gwendoline dans le projet, etc. On va parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est que ce projet sur la maltraitance animale? Déjà, on va présenter un petit peu tout le monde autour de cette table. On va commencer par le chef de projet, l'initiateur de cette idée, Adrien, bonjour.
Bonjour, moi c'est Adrien, j'ai 16 ans et donc j'ai créé ce projet parce que je suis absolument fan des chiens et je suis totalement contre l'abandon des animaux.
Ah, il est parti direct sur le sur le truc, il est chaud, c'est bien, c'est carré, c'est précis. Donc Adrien, chef de projet qui est fan de chiens et qui supporte pas la maltraitance animale, mais comme beaucoup d'entre nous, mine de rien, bien que il faille encore sensibiliser les gens, et toi c'était vraiment le but de ce projet-là, c'est de sensibiliser un petit peu les gens à tout ça.
Oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc en sensibilisant, on va éviter l'abandon des animaux et donc d'avoir des refuges qui sont surbookés. Mais pourquoi vous riez?
Alors là, ça me fait faire un montage, là, ça c'est pas cool. Donc en plus, vous écoutez pas ce qu'il dit. Donc vas-y, reprends.
Donc comme j'ai dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc autant sensibiliser les gens à ne pas abandonner les animaux en leur donnant peut-être des petits conseils, en leur disant peut-être quelle race est faite pour quoi. Par exemple, ne pas prendre un berger allemand alors qu'on est une personne âgée qui ne peut plus bouger. Et voilà, c'est tout simplement pour éviter qu'on retrouve des chiens en refuge pour absolument des raisons qui sont absolument débiles.
Ouais, ou en tout cas qui semble évidente. On va continuer ce tour de table avec deux de tes comparses, à savoir Camille et Zoé. Alors je vais dire bonjour à Camille déjà, salut.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Réfléchis bien, hein. T'es sûr que ça va?
Oui.
Ok, et j'ai juste à côté de toi Zoé, salut.
Bonjour.
Ça va bien aussi?
Oui.
D'accord, vous deux, vous êtes scénaristes?
Oui, en effet.
Ok, alors, on va partir un petit peu justement sur l'explication de ce projet, à savoir cette sensibilisation, comme le disait Adrien, autour des maltraitances animales. Vous avez eu l'idée, en tout cas Adrien vous a insufflé l'idée, de faire un manga.
Oui.
Et alors, racontez-moi un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là?
On est parti de l'idée de l'abandon et de la maltraitance plutôt des chiens, mais aussi de tous les animaux. Mmh. Et en fait, on les a réunis en plusieurs histoires dans un manga, un petit manga.
D'accord. Donc plusieurs mangas dans un recueil en fait de plusieurs histoires, c'est une compilation en gros. Deux témoignages réels, pas réels, comment ça s'est passé ça? Justement,
réel.
Si vous êtes scénariste, est-ce qu'il y a des inventions là-dedans ou
Non.
Non.
Alors si.
Alors si, qui dit.
C'est que nos histoires sont basées sur des faits réels. Moi, je racontais l'histoire de mon adoption ratée quand j'étais enfant. Mais on peut aussi donner des histoires qui sont un petit peu scénarisées, romancées, qui sont tirées de faits réels parce que ce sont des choses qui arrivent vraiment. Mais on n'a pas de nom spécifique. On n'a pas contacté de gens qui ont eu cette histoire. Mmh. C'est juste que ça nous paraît tellement évident que ça arrive, et c'est vrai que ces histoires arrivent, qu'on va les romancer et les mettre dans le livre.
Alors d'où elles viennent ces histoires au départ? Comment vous avez recueilli ces témoignages-là?
Alors on a commencé par prendre nos histoires personnelles. Mmh. J'ai pris l'histoire de Dino. Gwendoline a pris l'histoire de son chien. On a aussi une communicatrice animale qui est venue avec sa toute petite chaîne Terre-Neuve. Qui a eu une histoire assez aussi émouvante, qui nous l'a racontée, et on va mettre cette histoire également dans le recueil.
D'accord, ok. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres témoignages personnels de votre côté, les filles?
Non, moi, c'est pas personnel, c'est plus... c'est réel. La plupart des personnes abandonnent en effet les chiens dans la forêt, attachés à un arbre. Mm-hmm. Mais non, c'est pas personnel.
C'est pas personnel. Zoé?
oui, moi c'est personnel, c'est l'histoire de mon ancien chien que j'avais.
Ouais. Et qui te touche encore aujourd'hui.
Oui.
D'accord. Donc là, ça fait partie un petit peu de tout ça. Alors, comment vous organisez votre travail ? C'est-à-dire que qui, en tant que scénariste, par exemple, comment vous mettez les choses en ordre dans les histoires ?
Alors, on prend des idées, comme par exemple les abandons, et on les travaille un peu. Pour, par exemple, faire une histoire avec un chien qui se fait abandonner dans tel endroit par telle personne pour justement romancer cette histoire, pour en faire une histoire.
Et on commence par une idée de base, après on travaille le storyboard, puis après la page finale, peut-être par traditionnel ou par digitalisé. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une planche de dessin.
Alors, on va faire un petit distinguo rapide pour ceux qui ne seraient pas aficionados du manga ou du dessin dans son ensemble. Tu dis papier ou numérisé, c'est-à-dire en traditionnel ou numérisé, tu me disais ?
Traditionnel, c'est donc ce qui est sur papier, sur toile, la peinture, tout ce qui se fait avec la main et un objet réel. Mmh. Et le numérique, le digitalisé, c'est sur donc tablette graphique.
D'accord. Donc, il y a un mélange des deux supports ?
Oui, on peut totalement mélanger les deux supports.
Ok. Et je reviens quand même sur l'origine de la question. Ça t'est venu comment cette envie de passer vers le manga ? Pourquoi t'as choisi le manga en particulier ? Parce que ça aurait pu être une fiction, ça aurait pu être un support vidéo, ça aurait pu être n'importe quel support. Pourquoi spécifiquement le manga ? Ça aurait pu être même de la BD traditionnelle.
Alors, on a un format de lecture qui est plutôt de BD traditionnelle. On va garder quand même des éléments du manga. Et l'idée du manga, c'est parce que je fais partie du club manga de la MJC. Ça fait quelques années que je dessine. Et en vrai, depuis tout petit, j'ai toujours voulu créer une bande dessinée.
D'accord. Donc ça, c'est par rapport à tes goûts personnels en matière de dessin.
Oui, c'est ça.
Ok. Et par la suite, vous... alors, je m'adresse à Camille et Zoé, du coup. Au niveau du support, les mangas, est-ce que vous en lisez un petit peu ?
Oui. La plupart des grandes collections, oui, je suis fan de manga.
D'accord. Zoé ?
Moi, j'en lis quelques-uns, mais pas beaucoup.
Ouais.
Moi, je suis plutôt branchée sur les romans, tout ça.
D'accord. Donc, toi, tu lis du livre avec des lettres, pas d'images. Ouh là là. Attention. Ok. Et donc, quand Adrien est arrivé, dire voilà, on va faire un manga, etc., ça vous a tout de suite plus, vous n'avez pas fait une contre-proposition derrière ?
Non. Non, j'ai juste décidé de l'accompagner parce que ça m'avait l'air cool.
D'accord.
Oui, c'est vrai que ça avait l'air cool.
Ok. Donc, storyboard. Alors, vous intervenez à quel moment ? Est-ce que vous touchez un peu au storyboard ou c'est directement... comment vous travaillez ensemble, en fait ?
En fait, on schématise un petit peu, par exemple, l'histoire de Camille ou la mienne, celle d'Adrien aussi, on les schématise un petit peu. Après, les dessins, c'est pas tellement. Enfin, on les fait vite fait. On écrit surtout l'histoire. Et après, Gwendoline, avec notre histoire, elle schématise les personnages, les dessins. Et elle nous fait un peu.
En propre.
Voilà.
Elle fait quelque chose de propre. Alors, parlez-moi justement de cette fameuse Gwendoline. Parce que elle intervient, mine de rien. Elle a quand même. Une incidence dans votre travail, ou en tout cas elle vous accompagne dans le travail. Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? C'est quoi son rôle à Gwendoline ?
Elle dessine et elle représente nos idées.
D'accord, donc Adrien, t'es pas tout seul à dessiner du coup ?
Non, je suis pas tout seul.
Ok, parce que justement c'est ça aussi de savoir, c'est comment il y a en général dans les mangas, on sait très bien qu'il y a différents dessinateurs qui font différents, soit volumes, soit dessins, etc. Donc là en l'occurrence, vous êtes deux ou il y a encore d'autres dessinateurs ?
Non, on n'est que deux.
Vous êtes que deux. Et comment ça se passe du coup le travail ? Comment vous répartissez les tâches ? Il y en a un qui fait les personnages, d'autres les animaux, quelqu'un fait des décors, comment c'est généré tout ça ?
Alors, moi je vais surtout faire mon histoire. Et après, Gwendoline va faire les histoires de Zoé et de Camille. Va peut-être illustrer la sienne aussi d'ailleurs.
Oui, parce que Gwendoline a son histoire aussi dans le, oui. Dans le manga.
Oui.
Ok. Et donc,
on va peut-être travailler sur un récit qui est plus fictionnel, qui sera peut-être plus long, parce qu'en général, on va travailler sur du format peut-être une ou deux pages par histoire. On va travailler en format strip, c'est-à-dire qu'on a des cases et assez limitées. En général, un strip, ça fait peut-être 4 cases. Moi, pour mon histoire, j'en ai 7. Mais il y en a qui en ont plus que d'autres.
Ouais.
N'est-ce pas, Zoé?
Oui, j'ai beaucoup à raconter. Donc,
d'accord.
Ça fait beaucoup de cases, donc beaucoup de pages.
C'est peut-être l'histoire la plus longue du recueil, en fait.
Peut-être. Je ne sais pas trop s'il y en a une plus longue.
Ouais, mais en tout cas, elle a sa conséquence de toute façon. Du coup. Une fois que... Alors, vous en êtes où, là, en gros, de cette édition-là?
On schématise les personnages vraiment à leur image, et là, on en est à les mettre au propre.
Oui, on fait un peu le propre. On les dessine aussi sur la tablette graphique. Surtout Gwendoline qui fait le propre de nos personnages. Parce que, moi, si je peux dire, sur mon storyboard, c'était des patates avec une lettre dedans.
Voilà, c'est tout le principe d'un storyboard.
Voilà.
Oui, parce qu'on schématise d'abord pour savoir où vont être placés les personnages, où est-ce qu'on va placer éventuellement les bulles, le texte, etc.
Oui, voilà.
Donc, ok. Et puis, donc là, c'est en train d'être mis au propre et on a une idée de quand est-ce que ça va sortir, tout ça?
Ça va être vers la fin de l'année, vers octobre, il me semble.
D'accord. Ok. Et donc... Il y a combien d'histoires en tout qui vont être éditées là, dans ce recueil là?
Alors c'est pas encore fixé parce qu'on recherche d'autres histoires, mais on est déjà à 5.
Il y a déjà 5 histoires et le maximum que vous fixez c'est quoi?
On n'a pas fixé de maximum.
Vous n'avez pas fixé de maximum?
Non, enfin...
Alors, j'ai une intervention de Gwendoline, 10.
10, ah, okay. 10 histoires, d'accord.
Donc 10 max, parce qu'effectivement après ça fait beaucoup.
Oui.
10 histoires qui seront donc sous format papier et peut-être aussi numérique, a priori.
Oui.
Oui.
Alors, le format papier, on va s'intéresser d'abord à ce format-là. Il va être distribué dans quel réseau? Comment vous allez faire pour... Parce que faire des histoires, faire une BD, faire un manga, etc., ok. Mais après, tout le côté de distribution, c'est aussi autre chose. C'est compliqué aussi, ça.
Alors, Bricomarché ont accepté de vendre nos mangas. On va aussi pouvoir les distribuer dans les écoles. Et après, peut-être aussi dans les refuges.
D'accord. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un système de dépôt-vente, par exemple, comme dans les écoles, pour éviter, faire un système de précommande où on dépose tant d'exemplaires dans un endroit et puis les gens viennent récupérer
Effectivement, ce serait mieux de faire de la précommande pour éviter d'avoir des pertes.
Voilà, pour effectivement éviter aussi, parce que la maltraitance est une chose, l'écologie en est une autre, mais les deux sont liés. On va revenir aussi un petit peu avant de partir un peu sur la distribution. Moi j'ai oublié de passer sur un truc, justement la maltraitance, parlons-en. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont évoquées dans votre manga pour justement... Alors, il y a cette envie de sensibiliser le grand public, on est d'accord, mais est-ce qu'on propose aussi des solutions contre la maltraitance dans son ensemble?
À la fin du manga, on pensait mettre des pages pour apprendre par exemple à faire asseoir le chien, aller le toiletter et tout ça.
D'accord, donc des notions de dressage un peu?
Oui.
Okay.
L'éducation, oui, apprendre peut-être à le rappel, c'est très important le rappel que le chien puisse revenir vers nous dans une situation d'urgence. Mais après, ça peut être aussi des trucs qui sont plus basiques comme ne pas attaquer d'autres chiens, ne pas sauter sur les gens, ça c'est très important quand même, mine de rien. Et faire s'asseoir, c'est un petit peu secondaire à côté.
D'accord, mais est-ce qu'il y a... Alors j'ai envie de tourner la question à l'envers, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite notice à mettre pour les propriétaires des animaux? Pour leur dire, voilà, les animaux, ce n'est pas des jouets qu'on offre à Noël, c'est bien aussi d'être bien élevé. Le chien ou l'animal qu'on a, c'est une chose de le dresser ou de l'élever, mais le propriétaire de l'animal en lui-même, est-ce qu'on le sensibilise aussi un peu par rapport à ça? Par rapport à la responsabilité qu'il a d'avoir un animal?
Oui, un petit peu, parce que...
faut prévoir le budget, l'emplacement où le chien va se coucher, tout ça.
Mmh. Oui, voilà. Et puis surtout, quand on adopte un chien, c'est pour le garder, pas pour le laisser dans la rue, parce que ça peut aussi influencer un peu le budget, aussi pour les vacances, par exemple. Enfin, si vous partez en vacances, vous êtes, enfin, vous n'êtes pas forcément obligé, mais il faut trouver quelqu'un pour le garder. Ou si vous partez en vacances avec, ça fait un coup en plus. Mmh. C'est pour ça que quand on adopte un chien, il faut bien réfléchir pour être sûr qu'on va bien s'en occuper et d'être sûr de le garder et ne pas l'abandonner.
Ou alors, des fois, il y en a qui prennent par exemple un chiot parce que c'est tout mignon, mais quand ça grandit, bah, c'est plus si mignon que ça.
Ouais, c'est plus si mignon et c'est déjà gros, 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 gros.
Ou alors des personnes qui prennent une race de chien, par exemple, un border collie, puis après, ils vont s'étonner qu'ils essayent de rassembler des troupeaux alors qu'en fait, ils ont été reproduits pour.
Mmh. Et oui, il faut se renseigner aussi effectivement sur ce pourquoi les chiens ont été dressés au départ. C'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ouais. Ok. Et puis, alors, on s'intéresse aux chiens. Du coup, le manga est orienté sur la maltraitance sur les chiens ou est-ce qu'on peut parler de l'ensemble des animaux aussi quand même?
Oui, on peut parler de l'ensemble des animaux. Il y a pas mal de maltraitance sur les rongeurs. Mmh. On a tendance à offrir des rongeurs pour les enfants, mais c'est pas fait pour. C'est pas si simple de s'occuper d'un rongeur. Ou même les poissons, c'est très dur de s'occuper de poissons. Il y a plein de choses à faire pour que l'eau soit bien pour le poisson, pour pas qu'il meure dedans. L'histoire de changer de l'eau, c'est compliqué. Il y a aussi les cohabitations entre les poissons. Un poisson combattant, ça vit tout seul. Mmh. Il y en a qui en mettent plusieurs. Il y en a qui gardent des poissons, des carpes koi dans des aquariums, alors que c'est fait pour être dans des petits étangs. Mais oui, il y a des gens qui sont pas très renseignés sur les poissons, sur les rongeurs, les oiseaux parfois.
Mmh.
Et c'est peut-être plus petit, mais c'est aussi de la maltraitance.
C'est vrai qu'on a tendance à acheter des lapins pour l'enfant, mais si le lapin reste dans une petite cage où il peut pas se défouler, c'est pas vraiment cool pour le lapin.
Mmh. C'est surtout qu'il faut, enfin, avant de prendre un animal, faut surtout se renseigner dessus pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut s'en occuper.
Garde un peu de sous de côté pour le vétérinaire, si jamais il y a un souci.
Oui, surtout qu'en plus, on oublie que ça vieillit un petit peu ces animaux-là et que ça a des problèmes de santé assez rapidement. Au bout de 10-15 ans, on commence à voir apparaître des signes de faiblesse. Et c'est pas forcément évident. Et là, c'est là qu'on rage en se disant « Oh là là, mais combien il va me coûter cet animal ?» Et qu'on finit parfois aussi par l'abandonner parce que on se dit « Non, c'est pas possible, ça me coûte trop cher » ou des trucs comme ça, quoi.
Oui, mais enfin, si on adopte un animal, on le sait qu'il faut s'en occuper, qu'il faut l'emmener chez le vétérinaire et que ça va avoir un coût en plus. Enfin, quand tout le monde le sait que quand on adopte un animal, ça va avoir un coût en plus.
Ouais, mais justement, votre manga, il est là pour le rappeler, j'ai l'impression.
Oui.
Voilà. Et puis, comme vous disiez aussi, se renseigner quand on fait l'acquisition d'un animal, on parlait de poisson, alors je vais faire une petite parenthèse sur une expérience personnelle. Moi, je vais rajouter ma pierre à l'édifice. Donc, en allant dans une animalerie, on va chercher un petit poisson rouge qui sont tous présentés dans des bacs énormes où ils sont des centaines là-dedans à se nager entre eux. Et puis, on va prendre celui-là. Donc, on prend celui-là, on l'amène à la maison et puis on le met dans son petit aquarium. Alors, c'est pas un bocal rond, c'est un truc aquarium avec un machin à bulles, avec un filtre à eau, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une carpe koi et que ça n'a rien à voir, rien à foutre là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là maintenant? On ne sait pas parce qu'on n'a pas prévu un bac. On n'a pas la place pour avoir un bac aussi énorme. C'est même pas un bac qu'il faut, c'est une sorte de petit étang, une petite mare pour qu'elle puisse nager tranquille, quoi. Mais comme c'est tout petit, on se dit, ah, le petit poisson rouge, c'est mignon. Et on se doute pas que. Et là, il y a, je pense, un souci aussi dans les animaleries qui ont besoin de faire leur chiffre d'affaires et qui vont vendre ça à tour de bras pour dire « Ah, mais vous voulez un poisson rouge ?» Allez hop, et qui ne vous donnent pas forcément tous les renseignements nécessaires, que ce soit pour les hamsters, que ce soit pour les lapins, que ce soit pour tous les autres animaux. En général, les magasins, eux, ils sont là pour vendre. Donc, l'information, parfois, elle est un peu tronquée, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est tout à fait vrai. me rappelle, il y a encore quelques années, on avait les chiots et les chatons dans les animaleries. Et donc on les mettait dans une sorte de petit box, je sais pas, un mètre cube. C'est un chaton et un chiot n'est pas fait pour être là-dedans. Et heureusement, c'est illégal maintenant. Parce qu'en plus, leur provenance est quand même assez, assez bizarre. Hein. C'est pas génial.
Alors, il y a ce souci de provenance. Et puis, il y a aussi le souci, quand c'est pas dans des animaleries ou quand on a des éleveurs d'animaux de race, on va dire, souvent, on retrouve des soucis de... on taille la queue, on taille les oreilles pour qu'ils aient une certaine forme, on taille... voilà, on les modèle de manière à ce qu'ils soient vraiment dans l'image d'Épinal de cet animal-là. Il doit ressembler à ça.
Oui, c'est surtout les Doberman en particulier. Quand je parle de Doberman ou des gens, ils pensent immédiatement aux Doberman avec les oreilles dressées.
Toutes pointues, ouais.
Sauf que ça n'existe pas, on les coupe pour faire ça. Maintenant, c'est illégal en France. Mais on voit toujours ça aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand des gens font ça, c'est « Oh, bah, je fais ce que je veux, de toute façon, c'est mon chien.
» Mais après, enfin, Zoé. J'ai vu une vidéo où il y avait une propriétaire d'un chien qui le peignait en bleu, blanc, rouge. J'en ai vu d'autres où ils coupent les poils de leur chien pour qu'ils ressemblent... Enfin, pour faire ressembler leurs poils à des cheveux.
D'accord.
Et je trouve ça, enfin, c'est horrible parce que ton chien, tu le prends comme il est, enfin, tu le reçois bien et tu le peins en bleu, blanc, rouge par envie.
Bah, par besoin de satisfaction pour se faire. C'est, en fait, c'est comme un jouet ou un accessoire qu'on va customiser finalement.
Sinon, moi j'ai vu des gens qui peut-être teignaient la queue de leur chien dans une couleur qui est un petit peu plus voyante. Souvent, c'est pour des chiens d'aide à personnes handicapées, pour éviter que les gens, par exemple, du supermarché marchent sur la queue. Et teindre leur chien, c'est aussi. Ça permet d'éviter que le chien il se fasse voler, parce qu'il est plus facilement identifiable. Mais de là, le peindre en bleu, blanc, rouge, effectivement, je ne suis pas trop pour.
Bah après, oui, vas-y Camille.
C'est vrai que ceux qui teintent les griffes aussi, souvent pour faire du vernis sur les pattes du chien, c'est drôle, mais c'est pas bon pour sa santé.
C'est surtout grave quand c'est sur les chats.
Oui.
Et puis aussi, les poils d'un chien, quand tu le peins à la peinture, ça s'abîme.
Oui, oui, alors justement, mais il y a plein, ne serait-ce que dans les cabinets de toilettage pour chiens, où on a carrément des shampoings spécifiques avec des permanentes, des coupes spécifiques, etc. Enfin, bon, il y a des produits qui sont peut-être pas forcément adaptés non plus. Je sais pas, après, on parle dans le vide, il faudrait recouper les informations, mais ça doit pas forcément être toujours bon, et même au niveau de la nutrition, au niveau quand on achète des croquettes de supermarché, moi j'ai ma véto pour mon chat un jour qui m'a dit, mais là ce que vous achetez comme croquettes, c'est comme si vous lui donniez des chips à manger tous les jours. C'est exactement la même chose. Donc il faut passer par des aliments qui soient un minimum correct, quoi. Donc voilà.
C'est comme le chocolat, c'est pas bon pour les chats.
Ça ni pour les chiens.
Voilà, le lait qu'on boit nous, pour les chats, c'est pas bon.
Le lait qu'on boit nous, c'est pas bon pour les chats, non, effectivement.
La crème, le fromage, tout ça, c'est pas bon. Parce qu'on oublie souvent que les chats et les chiens ne mangent pas le même régime que nous. Par exemple, on peut être végétarien, les chats ne seront jamais végétariens, il faut leur donner une nourriture correcte.
Voilà. Oui.
Ça veut dire que les croquettes que j'achète tous les jours pour mon chat au supermarché, c'est pas forcément la bonne nourriture.
C'est pas forcément la meilleure des nourritures. Après, ben voilà, non, mais c'est ça le problème, c'est que tu vois, on en découvre tous les jours sur la maltraitance. En fait, on s'imagine parfois bien faire. C'est ça aussi. On essaye de sensibiliser d'un côté les gens pour dire faites attention à vos animaux, leur donnez pas ci à manger, leur taillez pas les griffes, faites pas ci, faites pas comme ça, faites pas machin. Et en fait, il y a des choses où on se doute absolument pas. Tu vois, tu découvres encore une chose là aujourd'hui. Il y a des choses dont on n'est absolument pas au courant, en fait.
En fait, on est persuadé de faire bien avec notre animal, mais c'est pas forcément. Enfin, on fait pas forcément les bonnes choses.
Voilà, on ne fait pas forcément les bonnes choses. Et donc, alors après, on sait aussi que les vétérinaires, ils ont besoin aussi de vendre des produits. C'est tout le problème du côté commercial des choses, c'est que ce soit en animalerie pour vous vendre des poissons, des tortues, des ce que vous voulez, des chinchillas, même des trucs qu'on va solliciter pendant la journée, alors que c'est des animaux qui sont censés dormir la journée, c'est des animaux nocturnes. Donc et les gamins ils vont essayer de jouer avec le truc alors qu'il a besoin de dormir. Et puis on a les vétérinaires. Alors je stigmatise pas tous les vétérinaires non plus en disant ça, mais on a les vétérinaires qui, au-delà des soins, vont avoir forcément dans leur commerce une vitrine avec des croquettes proplan machin qui coûtent une blinde. Alors effectivement, elles coûtent une blinde parce qu'elles ont une qualité nutritive, on va dire, un petit peu au-dessus. Mais qu'est-ce qui nous dit que... etc. etc. Comment on fait le pour... comment on pèse le pour et le contre, en fait ? C'est ça qui est compliqué, oui. en tant que citoyen, finalement.
C'est surtout, en fait, le problème du commerce, c'est qu'ils veulent toujours vendre, vendre, vendre. Et ils font beaucoup, beaucoup de choses. Et ça coûte... enfin, le prix, ça augmente, ça coûte cher. Le problème du côté commercial, c'est qu'il faudrait faire par exemple une marque de croquettes, mais qui soit vraiment bien étudiée pour être sûr que pour le chat ce soit bien.
C'est comme la dernière fois on faisait les courses, il y a un homme qui vendait des salades, il m'a proposé une laitue pour ma souris, mais en fait la plupart des gens l'ignorent, mais la laitue est vraiment nocive pour les rongeurs. Parce que ça peut leur couvrir l'estomac et les tuer.
C'est comme donner du pain pour les oiseaux ou pour les canards. Voilà. Ça, il ne faut surtout pas faire ça. Tu vois, tu parles de laitue. Alors là, si en plus tu prends de la laitue qui est dans un sachet plastique, tu sais, quand on achète des... ça, c'est plein de pesticides, c'est plein de machins, de conservateurs et de bidules, pas possible. Donc, ça devient compliqué, hein.
Mais là, vous m'apprenez tellement de choses.
Mais vous m'apprenez des choses aussi. C'est justement grâce à cet échange qu'on se donne des informations et qu'on évolue.
C'est pareil. Moi, j'ai des souris. Et en fait, mon frère aussi, il a tendance à vouloir les réveiller pour jouer avec la journée. Mais en fait, si on habitue la souris à la réveiller la journée, elle va mal s'habituer à notre rythme. C'est pas fait pour vivre le jour, sachant qu'elles viennent... d'une race nocturne.
Voilà, c'est ça. Comme les chinchillas dont on parlait tout à l'heure. Il y a plein de choses. C'est comme les tortues aussi. On les voit toutes petites dans les animaux. Oh, c'est tellement mignon. Et puis ça devient des trucs énormes qui durent, en plus qui vivent beaucoup plus longtemps que nous, qui arrivent à des âges plus que centenaires. Donc, qu'est-ce qu'on en fait une fois que nous on meurt et les enfants derrière, en plus il y en a certaines qui sont très très dangereuses, qui sont assez carnassières, qui peuvent carrément sectionner des doigts entiers. Donc bon, voilà, c'est tous ces renseignements autour de cette discussion là on se rend bien compte, comme tu le disais au début de l'émission, que à partir du moment où on prend un animal quel qu'il soit, on partait des chiens mais vous avez vu, on a digressé sur plein d'animaux, mais quel que soit l'animal que vous voulez prendre, renseignez-vous bien avant. Et puis il y a un autre truc, et ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose. Alors, maintenant il y a des vivariums où il y a des reptiles qui sont vendus dans certaines animaleries. Donc on vend des reptiles, et puis à côté de ça on va vendre aussi les criquets vivants dans des boîtes en plastique pour pouvoir nourrir les fameux reptiles. Donc alors là il y a Gwendoline qui nous montre les tortues de Floride, voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là, une longévité évaluée à environ 30 ans, voilà, les tortues de Floride. Donc
c'est comme
elles sont toutes petites et elles deviennent énormes.
C'est comme en animalerie, souvent on vend les serpents et à côté le rayon souris vivante. Et en fait, j'avais déjà interrogé plusieurs mondes, enfin personnes, qui m'expliquaient qu'en fait 99% des souris blanches, n'importe quelle couleur, étaient vendues vivantes pour nourrir les serpents.
Alors, on nous dit que non dans l'oreillette. Alors... ah oui, alors il y a des... Donc on nous précise que il y a surtout des souris qui sont congelées, des poussins congelés aussi pour pouvoir nourrir justement ces animaux-là.
Oui, c'est parce que par exemple j'avais une copine, son frère avait 20 ans, il avait un serpent. Et en gros son frère achetait des souris vivantes Il les enferme dans des sacs de congélation et il les congelait. Mmh. Et en fait, une semaine plus tard, il les donnait au serpent parce que c'était congelé.
D'accord.
Et en fait, c'est pour ça. Nous, on achète les souris parce qu'on les adore, on les dorlote, tout ça. Mais il y en a qui achètent des souris justement pour les congeler ou les donner au serpent.
Ouais. Je trouve ça horrible de congeler une souris vivante.
Bah oui.
Bah, comme les criquets qu'on donne à certains lézards ou des choses comme ça. Mais après, le truc, c'est que c'est la loi de la nature aussi. Il faut bien, à un moment donné, si on veut pas passer justement par ces fameuses croquettes qui font chips, trouver l'aliment idéal pour l'aliment naturel, finalement, pour l'animal qu'on a adopté. C'est compliqué, en fait, de faire des choix, justement, comme ça. Est-ce que... pourquoi on en vient à avoir, je sais pas moi, des caméléons dans des vivariums chez soi, alors que c'est des animaux qui sont censés vivre dans la nature, voilà. Pourquoi on en vient à avoir des animaux un peu rares chez soi, alors que, bon, on pourrait se contenter quand même d'avoir des animaux un petit peu plus simples, finalement.
Oui, c'est un peu comme les serpents. Mmh. T'as pas l'habitude d'avoir un serpent chez toi.
C'est trop bien les serpents.
Bah oui, c'est bien les serpents, mais est-ce que c'est pas mieux dans la nature?
Oui, mais c'est. Ils sont beaux les serpents.
Attention, parce que le frère de la personne à côté de moi a un serpent. Je sais pas, mais là, elle est magnifique.
Hein. Oui, non, mais c'est vrai que les serpents sont beaux et qu'on peut les adopter et en avoir un, mais enfin, moi je pense qu'ils. Et je pense qu'ils sont mieux dans la nature quand même. Enfin, c'est leur espace de vie.
C'est ça qui est délicat, c'est de trouver. Alors, malheureusement, Gwendoline n'a pas de micro, mais elle nous dit que l'encadrement devrait être mieux géré. C'est vrai que bon, on va pas offrir un serpent à Noël à un petit gamin de 7 ans. Voilà. Alors, on a donné un micro à Gwendoline. Voilà. Alors, bonjour Gwendoline, merci de nous rejoindre.
De rien. Donc, en fait, c'est l'encadrement qui devrait être mis en avant. Mm-hmm. On devrait faire beaucoup plus au niveau de la loi, parce que je trouve que déjà cette fameuse loi de 7 jours de rétractation. C'est moyen, moyen, moyen.
D'accord. À partir du moment où on achète ou on acquiert un animal, on a 7 jours pour se rétracter, en gros,
en fait,
c'est ça. Hein.
Oui, on a 7 jours et après, on peut dire oui, on le prend ou pas. Mm-hmm. Sauf que, gros problème, cette loi est facilement contournable.
D'accord.
Donc, on peut dire, je viens pour ce chien et finalement, 7 jours plus tard, non, il ne me plaît pas, je prends l'autre.
Mm-hmm. Ouais.
Et je trouve qu'il c'est pas... Le législateur n'a pas assez travaillé là-dessus.
Mmh.
Je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler les lois pour ça. Voilà.
D'accord.
Je te rends le micro.
Merci pour ces précisions,
merci
Gwendoline.
Bien.
Donc, on va revenir un petit peu sur les animaux. Leur lieu de vie normal, on va dire, au départ. Alors, adopter un chien, c'est une chose. Adopter un chat, c'est une chose aussi. Sachant que, alors c'est pareil, on peut faire un point aussi sur les chats. C'est devenu devenu une catastrophe écologique, le chat. Est-ce que vous étiez au courant de ça?
Oui, ça je le savais.
Non, j'en sais rien.
En fait, c'est un prédateur naturel des oiseaux et des rongeurs. Et donc, la surpopulation de chats dans les villes et même dans les campagnes, on fait disparaître sur une grosse partie de la population des oiseaux et des rongeurs dans leur ensemble. Donc l'écosystème, il est complètement déréglé à cause des chats, en fait.
Voilà. Gardez vos chats chez vous, au moins ils ne mourront pas.
Voilà, alors,
oui, mais,
stérilisation ou pas?
Ah. Il faut savoir que mon chat est stérilisé.
Mmh.
Alors moi, j'étais pas pour, je voulais pas, parce que je voulais avoir des chatons, d'accord?
Mais pourquoi tu veux des chatons alors qu'il y en a tellement qui sont dans les refuges? Parce que tu veux ton chaton, oui, mais c'est égoïste.
Mais non, mais je sais bien.
Mais le problème, c'est que les chatons, c'est mignon.
C'est mignon, oui, mais c'est... tu peux en trouver partout. Même à donner, tu peux en trouver.
C'est vrai?
Oui. Bah oui.
Oui, sur le Bon Coin, Facebook, tout ça.
Oui, c'est vrai, j'ai vu sur le Bon Coin, il y a plein de petits chiots, des chatons.
Demande à
des chatons.
Parents avant, t'es jeune.
Oui, je sais, mais c'est pas grave, je vais en acheter un quand même.
ok, point chaton, c'est fait.
Hop là.
Attends, parce que là, il y a le autorisé, le truc. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Couvre-feu, obligation de sortir les chats en laisse. Une nouvelle loi publiée pour protéger la faune sauvage locale. Donc voilà, gardez vos chats chez vous.
Mais c'est hors de question que je sorte mon chat en laisse.
Non, mais soit tu le sors en laisse, soit tu le sors pas, c'est tout.
Mon oncle, il le fait. En fait, il a peur que ses chats soient écrasés, donc il a un petit harnais, il le laisse.
Ah ouais, mais c'est bien.
Mais mes parents, ils sont même pas au courant, ils vont jamais être d'accord de sortir notre chat en laisse, hein.
Mais c'est comment?
C'est un projet de loi, hein. Pour l'instant, c'est pas voté encore, mais...
Ah,
c'est voté, là? Ah, de l'année dernière. Ah ouais, d'accord. Donc, attention.
Mais tout le monde dans mon quartier laisse son chat sortir comme ça.
Évidemment,
hein.
Personne n'est au courant. Donc, forcément.
Bah, je vais le dire à mes parents en rentrant ce soir.
Ouais, vous aurez appris plein de trucs au travers de cette émission, en tout cas. Alors, on va revenir maintenant sur la BD. Vous inquiétez pas, hein, comme je vous ai dit, je vais certainement faire du montage pour. Je vais mettre des pauses musicales parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, vous aurez le choix de mettre les musiques que vous voulez, si vous le souhaitez.
Oh, c'est bien. Ouais. Oh, c'est bien.
Alors, en rapport avec les animaux, de préférence, c'est encore un petit peu mieux.
On peut pas mettre de la pub.
Non, ça, si on peut éviter, ce serait chouette.
Oh non, ce serait drôle. Ce serait trop drôle de mettre « c'est la pub ».
Non, la pub, c'est votre BD et c'est votre manga, en fait.
Bah, sinon, on fait un petit montage avec nous qui parlons « c'est la pub ». Nous vous présentons le projet.
On fera une pub après. Si tu veux, pour faire ça, là.
Je vais mettre des génériques de Bernard Minet.
Allez, on va revenir à.
Je crois que Gwendoline n'est pas tellement d'accord.
On va revenir à nos moutons. Alors,
j'adore ça.
À nos mangas, plus précisément. Donc, on a évoqué le fait que ce manga était distribué donc gratuitement, éventuellement dans les écoles en système de précommande pour éviter les déchets. Format papier vendu à Bricomarché à Fécamp, du côté de Saint-Léonard, sur le plateau. C'est ça, hein?
Oui.
Ok. Et puis, une version numérique qui sera certainement sur le site de la MJC.
Oui.
Ok. La dernière question que je voulais vous poser par rapport à ce manga. Alors, est-ce qu'il a un titre déjà ou pas?
Alors, attendez.
Je ne m'en rappelle plus.
Ah oui.
N'oublie pas ta promesse.
Oui, voilà.
Oui,
n'oublie pas ta promesse. Très bien.
On a mis ça pour. Enfin, grâce à la mère de Gwendoline aussi, parce qu'elle nous a un peu instruit l'idée. Mais n'oublie pas ta promesse, c'est aussi pour
les maîtres qui adoptent des animaux, leur rappeler que quand ils adoptent, ils font une promesse aux animaux de les garder pour toujours. Et leur offrir l'amour dont ils sont
besoin. Mais ils ne le font pas.
La plupart, ça, on ne vise pas tout le monde.
On ne vise pas, voilà, pas d'amalgame. Ouh là là. Ok, donc, et alors... La dernière question que je voulais vous poser, avant de savoir quand est-ce que ça sort, c'est, je vous l'avais posé en off, mais j'imagine que vous y avez réfléchi un petit peu, est-ce que vous n'avez pas peur justement que ce sujet sensible soit quelque chose qui réfrène un peu et puis qui dise « Ah, c'est sur la maltraitance animale ? Ah non, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas envie de voir ça, en fait. »
Alors, je pense que les gens peuvent acheter tout, n'importe quoi. Il existe des BD de l'histoire d'Hitler et de la Shoah avec des souris qui se vendent à 40 euros. Donc, à mon avis, c'est pas ça qui va les empêcher d'acheter.
Alors, vu de ce point de vue-là, ça se défend très très bien, effectivement.
Merci.
C'est surtout qu'il faut avoir de la curiosité. C'est pas parce que ça parle de l'abandon des animaux ou de la maltraitance qu'il faut pas être curieux de découvrir...
Puis s'il vous plaît, il y a des gens qui achètent des bouquins pour chier dans la forêt. Enfin, c'est bon.
Des bouquins pour chier.
Non, ça existe vraiment. Et il y a plusieurs éditions.
Tu vas me dire qu'il y a plusieurs éditions, édition 1, comment chier dans la forêt.
Oui. Dans plusieurs éditions et tout.
Alors, non, mais... ça part un peu en vrille, mais c'est pas bien grave. La raison principale aussi pour laquelle vous pourriez vous intéresser de toute façon, c'est qu'il y a plein de mangas aussi qui parlent d'agression sexuelle ou de choses très très graves, ne serait-ce que Hiroshima, combien de fois ça a été traité dans ce genre de truc. Donc si vous avez aimé Le Tombeau des Lucioles, forcément c'est que
prenez notre manga.
Voilà, prenez le manga, prenez-le. Ça va être très joli et
il est beau en plus.
Alors moi j'ai vu les dessins, je peux pas vous les décrire comme ça parce que forcément on est à la radio, donc intéressez-vous à tout ça. N'oublie pas ta promesse, ça sort quand?
Alors, sortirait vers octobre, en fin d'année.
en fin d'année. Donc, surveillez le bricomarché du coin là-haut à Saint-Léonard. Si vous voulez plus de renseignements, orientez-vous du côté de la MJC à Fécamp. Vous allez voir, c'est dans
venez
la cour.
Venez nous voir.
Voilà. vous faites un petit coucou, toc toc, vous rentrez. Ouais, j'ai entendu parler à la radio qu'il y avait un manga sur maltraitance. N'oublie pas ta promesse. Est-ce que vous l'avez? Et peut-être qu'il sera aussi disponible, très certainement, même du côté de la MJC. Oh, merci beaucoup, en tout cas, à Adrien, chef de projet, initiateur de l'idée, à Gwendoline en off derrière, qui nous a donné quelques explications complémentaires et qui est dessinatrice avec Adrien. Également à Camille pour ses précisions, ainsi qu'à Zoé au niveau des scénarios pour, enfin, du 3-4. On recommence. Merci également à Camille et Zoé, scénariste et donc instigatrice aussi de ce projet. Merci vraiment encore beaucoup d'avoir pris le temps de répondre
mais
à ces
questions.
Mais
de rien.
Ça y est, elle est plus détendue. Elle était stressée au début, mais
oui,
là, ça,
mais
va
ça
mieux.
Va, ça va.
Okay.
Finalement, c'est plutôt cool.
Maintenant, je m'habitue à ma voix, en fait.
Voilà.
Et puis nous on se retrouve pour une prochaine interview prochainement. On vous souhaite la bonne après-midi ou la bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez sur Radar. Ça continue et on vous dit ciao, salut.
Au revoir.
L'atelier.
Moi je dis rien moi. Là, y en a à dire.
On apprend à faire de la radio sur Radar. L'atelier.
Wait, hold it.
L'atelier.